Nous prions encore un instant. Oui, Seigneur, nous sommes très forts, Seigneur, très forts pour tendre ta parole, pour n'écouter de ta parole que ce que nous voulons bien entendre, pour l'interpréter comme elle nous arrange. Pour tout cela, nous sommes très forts. Alors, Seigneur, nous te demandons ce matin, nous demandons à ton Saint-Esprit de renverser ces obstacles, de faire le ménage dans nos cœurs pour te laisser toute la place, plus exactement pour laisser toute la place à ta parole, celle qui nous guide, celle qui nous fait vivre, pas celle que nous voudrions inventer nous-mêmes. Merci Seigneur de ce travail que tu fais, de ce travail de révélation. Merci d'avoir expliqué que ce n'est pas par nos intelligences. Ce ne sont pas les sages et les intelligents qui accèdent le mieux à ta parole, mais ceux à qui tu veux bien la révéler. Amen. Amen. Alors, je vous ai proposé ce matin, dans l'évangile de Marc, que je crois que c'est vraiment pas un texte que j'aurais choisi de moi-même. Vous allez comprendre pourquoi. Marc chapitre 9, on va lire du verset 30 au verset 37. Marc 9, 30 à 37. Ils partirent de là et traversèrent la Galilée. Jésus ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples et leur disait « Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes, ils le feront mourir, et trois jours après sa mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole et ils craignaient de le questionner. Ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'ils furent dans la maison, Jésus leur demanda « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Mais ils gardèrent le silence, car en chemin, ils s'étaient entretenus sur la question de savoir qui était le plus grand. Alors il s'assit, appela les douze et leur dit « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Et il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et après l'avoir embrassé, il leur dit « Quiconque reçoit en mon nom un de ces petits-enfants me reçoit moi-même, et quiconque me reçoit ne me reçoit pas moi-même, mais celui qui m'a envoyé. » Est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'on vient de lire par rapport aux disciples? Quand on y réfléchit, on a de quoi être stupéfait. Rendez-vous compte, en chemin faisant, les disciples discutent, alors discutent, peut-être se chamaillent même entre eux, pour savoir qui est le plus grand. Autrement dit, qui est le meilleur d'entre eux. C'est assez stupéfiant. Il y a d'ailleurs un autre passage qui, dans la Bible, dans l'évangile, dans le même évangile de Marc, juste le chapitre juste après, chapitre 10, qui relève de la même énormité. Si vous voulez le lire, vous le lirez, donc chapitre 10, verset 35. Il s'agit des fils de Zébédée, Jacques et Jean, qui viennent trouver Jésus pour lui faire une demande d'être les premiers ministres, auxquels ils avaient une vision politique finalement de la mission de Jésus, d'être l'un assis à sa droite, l'autre à sa gauche, lorsqu'il sera dans son royaume. Bref, d'être le plus grand. Stupéfiant. D'ailleurs, les disciples ne sont pas ingénus dans cette démarche. Ils s'en rendent bien compte, puisque quand Jésus, qui lui pour le coup est ingénu, dit « De quoi discutiez-vous en chemin ?» On les imagine regardant par terre, bien embarrassés, parce qu'ils se rendent bien compte que quand même ils poussent un petit peu le bouchon. Oui, on est stupéfait et peut-être même, on pourrait dire, choqué, parce qu'il y a un élément, j'ai pris soin de lire à partir du verset 30, Si vous vous souvenez bien du début du texte, Jésus annonce à ses disciples qu'il va être livré entre les mains des hommes, qu'ils le feront mourir, et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. Il annonce ses souffrances et sa mort à ses disciples. Et l'instant d'après, de quoi discutent les disciples ? De savoir qui est le plus grand. Donc là, on passe de la stupéfaction au choc. Au choc. Les disciples ne devraient-ils pas être 100% tournés vers ce qui attend Jésus ? Alors, en même temps, ils ont une excuse. Allez, là, jusqu'à présent, j'ai chargé le dos des disciples. Maintenant, je vais essayer de les sauver un petit peu. Il nous est dit, mais les disciples ne comprenaient pas cette parole. Et ils craignaient de le questionner. Alors, ça aussi, ça peut être étonnant parce que Jésus est clair. Il dit le Fils de l'homme. Ils savent très bien que le Fils de l'homme, c'est lui. Sera livré entre les mains des hommes, ils le feront mourir, et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. C'est clair. Mais nous voyons bien là que, à ce moment-là précis de l'évangile, du timing, si vous préférez, de la mission de Jésus, les disciples ne pouvaient pas et ne devaient pas comprendre. Les choses ne leur étaient pas encore révélées. Nous, elles sont révélées depuis, bien sûr, hein, puisque Jésus est ressuscité depuis déjà 2000 ans. Alors on comprend bien ces choses. Mais eux ne pouvaient pas les comprendre. Alors, tout ça pour dire que, oui, alors bien sûr, Jésus vient d'annoncer ses souffrances et sa mort, mais ça n'a pas imprimé chez les gens. Ça n'a pas percuté. Bon, toujours est-il que Jésus profite, exploite l'incident pour enseigner ses disciples. Et cet enseignement, bien sûr, vous l'avez compris, c'est celui de l'humilité. Voilà pourquoi je n'aurais pas choisi ce texte, parce que l'humilité, c'est extrêmement délicat. Dès qu'on parle de l'humilité, on se dit, la première chose, il faut en faire preuve de soi-même. Sinon, il y a quelque chose qui ne va pas. L'humilité. On se rend compte que il y a une constante dans la Bible depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, hein, dans la totalité de la Bible, c'est que les choses sont inversées. Ce qui est grand aux yeux du monde, ce qui est puissant aux yeux du monde, ce qui est précieux aux yeux du monde, ce qui est sage, intelligent, savant aux yeux du monde, eh bien, c'est tout l'inverse aux yeux de Dieu. Et je crois que Jésus se base là-dessus. Alors, je peux vous donner multiples exemples, vous en connaissez autant que moi, dans l'Ancien Testament, David qui choisit le plus dernier de ses frères, le petit, qui, pour première mission, c'est d'aller battre Goliath, le géant, vous voyez. Quelque chose qui ne va pas, là. On envoie le plus petit, lui, en plus, il était tellement petit qu'il ne pouvait pas porter l'armure, et c'est avec une fronde qu'il va faire son... qui va tuer le géant. Gédéon, qui... c'était un trouillard, Gédéon. Il battait le trouvant, bien caché au fond de sa cave, tellement qu'il avait peur des Philistins, ou des, je ne sais plus si des Philistins, mais peu importe. C'est lui que Dieu choisit. Moïse, il est choisi, lui, pour aller parler au plus puissant des monarques de la terre à cette époque-là, c'est-à-dire le pharaon. Et Moïse avait un problème d'élocution, un bégaiement, etc. Dans le Nouveau Testament et dans les Épîtres, rappelez-vous de Paul qui dit « C'est lorsque je suis faible, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Alors Paul, il a tout compris. Alors pourquoi ? C'est là que ça devient intéressant. Parce qu'évidemment, là, on est en train de parler d'un côté de l'orgueil du monde, puissant, précieux, sage, etc. Et par opposition, on parle de l'humilité à laquelle nous sommes appelés, et notamment par Jésus. Alors, Jésus aurait pu être très simple dans son enseignement à ses disciples, il aurait pu dire, soyez humbles, ne recherchez pas la gloire, ne recherchez pas la... ce qui brille, la force. Ne cherchez pas à être grand, puisque là, c'était le cas. Hein. Ça aurait été simple. Mais, comme toujours, comme souvent, Jésus utilise une formule qui nous met un petit peu dans l'embarras. Parce qu'il dit, si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. Donc, finalement, première chose, soyons clairs, Jésus ne dit pas, ne cherchez pas à être les premiers. Il dit, si vous voulez être le premier, soyez le serviteur de tous. Donc là, Jésus rentre de plein pied dans ce que j'appelais une inversion des valeurs, hein, de ce qui est faible devient fort, etc. Alors, moi, je vous avoue que être serviteur de tous, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que là, bien sûr, Jésus enseigne ses disciples, mais là, à l'instant même, il nous enseigne tous. Vous voulez être grand aux yeux de Dieu? Qui ne veut pas être grand aux yeux de Dieu? J'espère que personne ne va lever la main. Oui, nous sommes fiers de la foi que nous avons, nous voulons être le mieux possible aux yeux de Dieu. Et bien seulement à ce moment-là, le Seigneur nous dit, soyez le serviteur de tous. Alors, que signifie concrètement, comment puis-je être le serviteur de tous? Alors, s'agit-il d'être par exemple serviable? Après tout, c'est une qualité reconnue dans le monde, mais pourquoi pas, ça serait aussi une qualité spirituelle, être serviable. Je crois bien que Jésus n'a rien contre être serviable envers son prochain. Mais il y a quand même une grosse différence entre être serviable et être le serviteur de tous. Alors, d'ailleurs, vous remarquerez, je vous ai parlé tout à l'heure de ce texte, du chapitre 10, où les fils de Zébédée demandent à être les premiers dans le royaume, et donc à droite, à gauche de Jésus. Et d'ailleurs, Jésus va déboucher exactement sur le même enseignement, puisqu'il dit « Quiconque veut être grand parmi vous sera votre serviteur. » Oui, jusque-là, c'est pareil. Et il va même rajouter quelque chose d'encore plus fort. « Et quiconque veut être le premier parmi vous sera, tenez-vous bien, l'esclave de tous. » Il y a quelqu'un qui connaît sa Bible.
Oui, c'était dans le message du
prophète. L'esclave. Alors déjà le serviteur, regardez dans notre société actuellement, vous pouvez très bien avoir par exemple quelqu'un qui vient travailler chez vous pour faire le ménage. Vous n'allez pas dire c'est un serviteur, une servante. Vous allez dire c'est un employé de maison. Bon, et quant à l'esclavage, attendez, c'est depuis 1850 qu'il est aboli. Donc on n'ose même plus. Évoquer le terme. Il existe toujours, malheureusement, l'esclavage dans le monde. Il y a encore des esclavagistes et des esclaves. Donc, là, comment est-ce que je peux m'approprier l'enseignement de Jésus? Comment être serviteur? Alors, je pense quand même que Jésus, ici, se situe sur le plan spirituel. Parce que, dans le fond, quand les disciples cherchent à savoir qui est le plus grand, et Jésus dit, si vous voulez être le plus grand, le premier, c'est sur le plan spirituel, bien sûr, c'est pas 1m95, c'est pas c'est le plus grand devant Dieu. Donc la solution à notre question, elle est également spirituelle. Être le serviteur de tous, spirituellement, mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est plus facile. Hein. Être le serviteur de tous, ça voudrait dire à ce moment-là, si on se place donc, comme je viens de le dire, sur le plan spirituel, ça voudrait dire avoir le regard ou la considération pour le prochain, le même regard, la même considération qu'un serviteur peut avoir vis-à-vis de son maître. Il n'est même pas question de sentiment. Un serviteur, qu'il aime ou qu'il n'aime pas son maître, il sait déjà au départ que son maître est au-dessus, plus grand que lui. Et Jésus dira d'ailleurs, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, etc. Vous connaissez la parole. Ah, alors là, on a déjà un peu décortiqué, ça ne veut pas dire que c'est toujours très facile. Considérer les autres comme plus grands que soi, comme avant soi, comme etc. Vous savez, finalement, cette question qu'on se pose, elle rejoint celle qu'on peut se poser à propos d'une autre formule que Jésus ramène depuis l'Ancien Testament et qu'il la ramène souvent, c'est « tu aimeras ton prochain comme toi-même. Moi, juste la première partie, ça me va très bien. Tu aimeras ton prochain. Oh, bah oui, on peut bien faire un petit effort. On peut aimer son prochain. On peut se faire un petit peu de violence pour aimer son prochain. Comme toi-même. Est-ce que vous savez, pour vous, c'est évident d'aimer les autres comme vous-même? Sans que chacun réponde dans son cœur. Enfin, moi, je réponds au micro, je dis, moi, j'en suis incapable. J'en suis incapable. Aimer les autres, oui, mais comme moi-même, faut voir. Alors, on est donc dans, vous voyez, plus dans une disposition d'esprit, c'est pas une action concrète. Alors, bien sûr qu'on peut servir les autres, vraiment les servir sur le plan pratique, quand l'occasion se présente, pourquoi pas, mais bien sûr. Mais c'est beaucoup plus profond que ça. On est dans une dimension, comme je disais, une dimension spirituelle, de considération des autres. Alors c'est intéressant parce que Jésus prend un enfant, il le met au milieu d'eux. Ce qui est joli, c'est qu'il dit, d'abord, il l'embrassa. Alors, il n'y a jamais de fioriture dans la Bible. Il prit un enfant, il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et après l'avoir embrassé, alors déjà, il nous met dans un contexte de bienveillance, d'amour. Parce qu'on n'embrasse pas, il y a les embrassades hypocrites, bien sûr que ça existe, mais on n'embrasse pas quelqu'un pour lequel on n'a pas d'amour. Hein. Donc il nous place dans un contexte d'amour, et il leur dit, quiconque reçoit en mon nom un de ses petits enfants, me reçoit moi-même. Et par enchaînement, quiconque me reçoit moi-même, et bien reçoit, non pas moi-même finalement, mais celui qui m'a envoyé, c'est-à-dire Dieu, le Père. Alors, pour comprendre ce principe, la considération spirituelle des autres, eh bien peut-être Jésus est en train de nous dire, vous devez me voir moi-même dans le visage, sur le visage des autres. Et il dit de ces petits, c'est-à-dire justement ceux qui, a priori, seraient inférieurs à vous. Ceux qui, insignifiants, ils sont grands. Pourquoi? Parce qu'ils sont aimés. Vous voyez, Jésus l'a embrassé là, enfin. Ils sont aimés de Dieu. Et donc là, nous avons déjà le début de la piste à suivre. Comment être serviteur de tous? Ben, ça commence déjà par le regard que nous avons sur les autres. L'autre est aimé de Dieu, il est enfant, il est embrassé par Jésus, et donc il est grand, plus grand que moi. Alors, vous connaissez cette parole de l'apôtre Paul, c'est dans Philippiens. Dans Philippiens, chapitre 2, verset 3. Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité, voilà, c'est le thème du jour, dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même. Là, c'est pas Jésus qui parle, hein, c'est Paul. Donc lui, là, il passe à la pratique. Jésus a dit, on applique. Estimez les autres supérieurs à vous-même. À chacun de voir s'il en est capable. Alors moi, je vous dis tout de suite, personne n'en est capable. Donc ça refroidit. Hein, ce truc. Bon. Alors je vais essayer de réchauffer l'ambiance. Personne n'en est capable. À part quelqu'un qui se méprise. Alors il y a un truc pathologique, hein, ça arrive. Il y a des gens qui se mettent plus bas que terre. Mais vous savez, sinon, c'est des cas spéciaux. Mais sinon, c'est pas possible. Estimer les autres comme étant supérieurs à soi-même. Ben si, c'est possible, mais pas par vous-même.
Ah,
ça y est, respirez. L'assemblée est en apnée. Comment allons-nous faire pour suivre, devenir serviteurs les uns des autres? Et bien sûr, c'est par l'aide du Saint-Esprit. Et alors, moi, vous savez, bon, j'en arrive déjà un petit peu à ma conclusion, et vous avez peut-être remarqué que, pour terminer une prédication, je trouve toujours très confortable de citer Jésus. Parce que finalement, je suis sûr de ne pas me tromper avec Jésus, je suis dans le vrai, n'est-ce pas? Et il se trouve que pour chacune des questions qu'on se pose, chacune des souffrances qu'on endure, chacune chacun des événements qui peuvent nous atteindre, chacun des... tout ce qui peut nous arriver dans la vie, eh bien Jésus, il est passé. Alors, en temps très court, hein, sur ses 3 ans de ministère, c'est très concentré, mais il est passé et il a apporté une réponse extraordinaire. Alors, question humilité, faut-il vous rappeler l'humilité de Jésus? Alors, il l'a fait d'abord, enfin pas d'abord, mais à un moment donné, il a démontré cette humilité de façon symbolique. C'est quelques heures avant sa mort, qu'est-ce qu'il a fait? Très bien. Trop tard, elle l'a dit avant. Il a lavé les pieds de ses disciples. À mon avis, ils n'avaient pas besoin qu'on leur lave les pieds, ça avait déjà été fait, ou c'était pas le truc du moment, il était sur le point de partir à Golgotha, enfin bon. C'était symbolique, bien sûr. Alors il s'est mis à laver les pieds des disciples, et c'était une tâche, alors c'était une coutume, hein, attention, c'était une coutume parce que les gens marchaient sur des chemins caillouteux, poussiéreux, ils arrivaient à la maison, ils avaient les pieds en triste état, première chose, on les lavait, ça leur faisait du bien, voilà. C'était une tâche qui devait être certainement dévolue aux plus humbles, aux plus petits des serviteurs. C'est-à-dire le plus jeune, l'esclave, le serviteur, le dernier. Et Jésus prend son rôle. D'ailleurs, il y a un détail, c'est qu'il enlève son vêtement, parce que celui qui devait faire ça, pour ne pas se mouiller, il était nu, alors bon, j'imagine, il y avait un pagne à faire. Et Jésus se met à nu, et ça a une symbolique aussi. Il enlève son vêtement, il se met à genoux devant ses disciples. Là, ce qui est marrant, c'est que Pierre lui dit, ah, non, toi Seigneur, alors, lui qui faisait peut-être partie des discuteurs en chemin qui voulaient savoir qui était le plus grand, et à mon avis, il devait défendre son bifteck, Pierre. Dire, attendez les gars, il est là le plus grand. Bon, il est là, non. Et alors, Jésus conclut cet épisode avec quelque chose d'extraordinaire, parce qu'il dit, si vous m'appelez maître et seigneur, et pourtant, vous voyez, je vous ai lavé les pieds les uns des autres, à combien plus forte raison vous devez vous laver les pieds les uns des autres? On est très dans le symbole, hein, il ne s'agit pas que des pieds, hein, il s'agit de beaucoup de choses. Donc ça, c'est sur le plan symbolique. Mais alors après, que dire de sa vie tout entière sur Terre? Je veux parler de l'humilité, hein, on est dans le... Voilà, Jésus montre le chemin, montre l'exemple. Depuis sa naissance jusqu'à sa mort, il n'est qu'humilité. Ben, à la naissance, il est né dans une mangeoire pour animaux, je me rappelle. Il n'y avait même pas de place pour lui, ni pour ses parents, dans l'hôtellerie. Il a vagabondé au travers de la Galilée, de la Judée, à Jérusalem, etc., sans un sou en poche, enfin, comme un misérable. Et puis, le final, ce qu'il faut que je vous le rappelle, il y en a une image derrière moi, il y en a deux images derrière moi. Le final, est-ce que c'est pas l'humilité absolue? Parce que là, c'est la mort qui est l'échec absolu, la mort. C'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Mais quelle mort? Une mort qui est déterminée par la Bible comme la mort infâme. Parce qu'on ne crucifie que les brigands, ceux qui avaient vraiment très mal agi. Etc., etc. Jésus nous montre l'image parfaite de l'humilité parfaite. Et il se situe bien comme le serviteur, puisque pourquoi il est mort? C'est pas pour lui qu'il est mort. C'est pas pour Dieu qu'il est mort. C'est pour nous. C'est pour les hommes. Donc lui, là, vous voyez, il s'est fait serviteur. Il s'est fait serviteur de tous, de toute l'humanité pour le coup. À nous de, entre guillemets, alors j'ouvre le gros guillemets, à nous de mourir aussi pour les autres. Parce qu'à chaque fois qu'on doit céder de notre orgueil par rapport au prochain, c'est une petite mort. Les amis, je finirai par dire... pour terminer cette prédication, je finirai donc en disant que l'humilité n'est pas une option, n'est pas un plus donné à tel ou tel plus ou moins de degré. Donc celui qui serait le plus humble serait déjà aurait une bonne avance vers le royaume des cieux. L'humilité, c'est une nécessité absolue. Je lis, j'avais mis un marque-page, j'avais retenu ce verset dans l'évangile de Jean, au chapitre 5, verset 44, Jean 5, 44. « Comment pouvez-vous croire, dit Jésus, vous qui recevez de la gloire les uns des autres et qui ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul ?» Alors, ça c'est intéressant parce que Jésus stigmatise l'orgueil. Vous recherchez la gloire, mais la gloire des uns des autres pourra pas être brillante aux yeux des autres. Et qui ne cherchait pas la gloire ? Alors, une fois de plus, il y a un truc bizarre. Il dit qu'il ne recherchait pas l'humilité, non, il dit qu'il ne cherchait pas la gloire qui vient de Dieu seul. Vous voyez, comme tout à l'heure, Jésus n'a pas dit à ses disciples, soyez humbles, il dit, si vous voulez être grand, soyez le dernier, soyez le serviteur. Et là, il dit pas ne cherchez pas la gloire, mais il dit cherchez la gloire de Dieu, qui vient de Dieu seul. Alors je disais à l'instant, c'est une question c'est une question essentielle, comment j'ai dit ça, c'est pas une option, l'humilité est essentielle. Nécessaire, absolument nécessaire. Il en va de notre efficacité, le mot n'est pas terrible, de notre
efficience.
Capacité, efficience, mais on va dire quand même efficacité, parce qu'on veut être efficace envers le Seigneur. Il nous enseigne de ne pas être orgueilleux. Par contre, est-ce qu'on peut être fier ? Oui ! Être fier de notre foi, être fier du Seigneur, être fier de ce que nous sommes grâce au Seigneur, oui. Mais la fierté n'est pas du tout la même chose que l'orgueil. Et donc je disais efficacité, pourquoi ? Parce que si nous avons ne serait-ce qu'un soupçon d'orgueil dans ce que nous faisons pour Dieu, ça va rater. Ce que nous ferons pour le Seigneur va rater. Il est dit dans 1 Corinthiens, verset 27. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont pas, pour réduire à rien celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. La clé, elle est là. Celui qui se glorifie de ce qu'il va faire, quand bien même ce qu'il fait est quelque chose de très positif pour Dieu, ça va rater parce qu'il se glorifie. Soli Deo Gloria, vous connaissez la formule de c'est Calvin ? C'est Bach. À Dieu seul soit la gloire. À Dieu seul la gloire. Alors évidemment, ça appelle en nous le maximum d'humilité, l'humilité la plus parfaite. Et là, nous serons efficaces. Alors, effectivement, on voit dans la Bible des gars comme l'apôtre Paul, il a été extrêmement efficace. Il a reçu tous les dons, il a fait des choses extraordinaires. Et peut-être que si nous tous, nous sommes chrétiens aujourd'hui, c'était grâce à lui. Pas lui, au Seigneur, mais par lui. Et c'est lui qui dit, c'est quand je suis faible, c'est alors que je suis fort parce que Dieu me rend fort, au travers de ma faiblesse. Alors oui, c'est presque, vous voyez, les chrétiens sont des masochistes, il faut rechercher la faiblesse. Rechercher ce qui est vil, je vous l'ai lu tout à l'heure, ce qui est faible, ce qui n'est pas précieux, ce qui est minable, aux yeux du monde. Parce que toutes ces choses que je viens de vous dire, la faible, minable, peu précieuse, etc., elles sont au contraire extrêmement précieuses, extrêmement fortes aux yeux de Dieu. Et c'est lorsque nous avons cette humilité que nous sommes capables, à ce moment-là, d'être efficaces pour le Seigneur. Eh bien, s'il y a un sujet sur lequel nous pouvons prier toute notre vie, tous les jours, jusqu'à la fin, c'est bien sur celui-là. Donne-moi, Seigneur, enseigne-moi l'humilité. Pas pour en tirer fierté, ça serait de l'orgueil, ça serait raté, vous voyez, ça c'est la fausse humilité. Non, donne-moi, Seigneur, l'humilité pour que je sois efficace pour ton service. Voilà. Amen.